Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Recueillons-nous pour méditer ensemble sur les versets 1 à 6 de la Sainte Sourate Bayana. Nous vous en présenterons tout d'abord la lecture chantée et ensuite la traduction.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما حنفاء ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة وذلك دين القيمة صدق الله العلي العظيم.
Ceux les gens du livre qui m'écroient, ainsi que les faiseurs de Dieu, ne cesseront pas jusqu'à ce que leur vienne la preuve. Un messager de la part de Dieu récite des feuilles purifiées, où sont des prescriptions droites. Et à ceux qui le livre a été donné, ne se sont divisés qu'après que la preuve leur fut venu. Il ne leur a été commandé, cependant, que d'adorer Dieu en purifiant pour lui la religion en sincère et d'établir l'office et d'acquitter l'impôt. Et voilà la religion de droiture. Oui, ceux des gens du livre qui m'écroient, ainsi que les faiseurs de Dieu, au feu de la gêne, pour y demeurer éternellement. de toute la création, ce sont eux les pires.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur les ondes de la Voix de la République islamique d'Iran ce mardi soir 3 août 2021. Merci infiniment d'être fidèle à la radio francophone iranienne, bienvenue dans le journal. La cérémonie de la validation de la 13e élection présidentielle iranienne a eu lieu de ce mardi à Téhéran, en présence du guide suprême de la révolution islamique, l'honorable Ayatollah Khamenei, qui a prononcé un discours important à cette même occasion. Nous allons revenir sur ce discours. La diplomatie iranienne a condamné les déclarations provocatrices américano-britanniques. L'armée syrienne combat le terrorisme à la place de nombreux pays dans le monde. C'était les principaux titres de l'actualité. En voici le journal. La cérémonie de la validation de la 13e élection présidentielle iranienne qui a donné lieu à la victoire d'Ebrahim Raisi a eu lieu ce mardi 3 juillet à Hosseiniyeh de l'imam Khomeini de Téhéran en présence du guide suprême de la révolution islamique, du président sortant et du chef du pouvoir judiciaire ainsi que des responsables politiques et militaires du pays. Au cours de cette cérémonie qui a débuté par un discours du ministre de l'Intérieur sortant, le décret du leader de la révolution islamique de promulguant le mandat présidentiel d'Ebrahim Raisi a été prononcé. Je remercie Dieu le Tout-Puissant qui a appuyé une nouvelle fois le peuple iranien pour sortir à la tête haute de l'épreuve politique et sociale que fut la présidentielle, une présidentielle qui s'est déroulée dans une situation complexe et difficile et où les Iraniens ont participé massivement pour élire un homme connu pour son bilan positif, ses capacités de gestion et sa détermination à aller de l'avant sur la voie de la justice sociale, de la liberté, de l'indépendance d'action et de la dignité de la nation, lit-on dans une partie de ce décret qui ouvre la voie à l'investiture du président Raisi dans 2 jours au Parlement iranien et à laquelle assisteront des délégations venues de moins 73 pays du monde. Et le texte d'ajouter, notre pays est aujourd'hui assoiffé de justice, d'action et d'un bon avant dans tous les domaines. Et ceci demande une capacité de gestion et un président brave, sage et volontariste, susceptible de mobiliser les capacités latentes et patentes de la nation, surtout celles des jeunes, dont les capacités vont au-delà des problèmes avec lesquels le pays est aux prises. Cette présidence devra d'activer ses potentialités, faire disparaître les obstacles sur la voie de la production nationale, du renforcement de la monnaie nationale, de secourir à cette couche démunie qui subit de fortes pressions. En ce moment, il faut une gestion avisée, propre à promouvoir le pays dans tous les domaines et lui donner la place qui lui convient. Je déclare, me sera ici élu suivant le vote d'une majorité des Iraniens président et je prie Dieu pour que cet homme déterminé, issu du peuple, infatigable, président, réussisse dans ses démarches. Cette cérémonie de validation de l'issue de la présidentielle se déroule en s'appuyant sur la constitution et la tradition que l'imam Khomeini a mise de ce surpied de cérémonie qui s'est déroulée à maintes reprises jusqu'à présent, a de souligner dans son discours l'honorable Ayatollah Khomeini, guide suprême de la révolution islamique. En général, dans beaucoup de pays du monde, ce transfert de pouvoir se fait sous des tensions et querelles, mais Dieu merci, ici en Iran, cela se fait dans le calme et en sécurité. C'est aussi le cas pour cette actuelle présidentielle. Cela témoigne aussi bien de la sagesse qui règne sur tout le pays, peuple et responsable, que de la liberté et de la diversité de tendances politiques. En fait, les gouvernements qui ont transféré le pouvoir aux autres avaient chacun une tendance politique, a souligné le guide suprême de la révolution islamique. Et de poursuivre, un complot avait été tramé pour boycotter les élections. Une politique qui avait été suivie par de certains milieux politiques ennemis à de l'extérieur du pays, de même que certains à l'intérieur du pays, parfois par l'ignorance, parfois par de mauvaises voies. Mais le peuple a donné une réponse ferme à tous ces complots par sa participation massive aux élections, a souligné l'honorable Ayatollah Khomeini. Plus loin dans son discours, le guide suprême de la révolution islamique a renchéri. Heureusement, le président élu, M. Ebrahim Raisi, a toujours insisté lors de ses campagnes électorales sur les valeurs essentielles de la révolution. Les valeurs de la révolution, l'établissement de la justice, la lutte contre la corruption, etc. C'est le chemin juste à parcourir. Et l'honorable Ayatollah Khomeini, je le précise encore, nous avons d'extraordinaires potentialités dans les domaines de l'eau, du pétrole, des mines, du marché intérieur, relations avec les voisins et chez la jeunesse. Sans aucun doute, s'appuyer sur ces capacités et potentialités pourrait aboutir à la solution des problèmes du pays. Malgré toutes les hostilités des ennemis, les conditions sanitaires créées par la pandémie de coronavirus et d'autres problèmes, le peuple avait une présence magnifique et a créé une grande épopée dans cette élection qui a déçu les ennemis et donné de l'espoir aux amis, a souligné pour sa part le président iranien Ebrahim Raisi dans son discours tenu à cette même occasion. Grâce à leur participation aux élections, a déclaré Raisi, les Iraniens ont envoyé le message qu'ils exigeaient le changement, la justice et la lutte contre la corruption, la pauvreté et la discrimination. Surtout la confiance du peuple dans l'administration a subi plus de dommages que ses moyens de subsistance, a déclaré Ibrahim Raisi, ajoutant que le peuple, par sa présence lors de ces élections présidentielles, a fait passer le message qu'il souhaitait que la nouvelle administration rétablisse cette confiance et réduise l'écart entre le peuple et l'administration. La relation entre la nation et l'administration pourrait servir de clé pour résoudre les problèmes et aider le pays à se dresser contre les inimités, a-t-il souligné. Raisi a également appelé tout le monde, y compris les élites, les penseurs et les fonctionnaires, à entrer en scène et à contribuer aux changements nécessaires. Nous cherchons certainement à lever les sanctions oppressives, mais nous ne conditionnerons pas les moyens de subsister puissance du peuple et l'économie et ne les lieront pas à la volonté des étrangers, a-t-il conclu. La diplomatie iranienne a condamné les déclarations provocatrices américano-britanniques réagissant aux nouvelles allégations anti-iraniennes depuis Londres et Washington. Le porte-parole de la diplomatie iranienne, Saïd Khatibzadeh, a déclaré que l'Iran, en tant que garant de la sécurité du Golfe Persique, condamne les déclarations provocatrices de la Grande-Bretagne et des États-Unis orchestrées de manière coordonnée contre la République islamique. D'Iran. L'Iran, en tant que garant de la sécurité du Golfe Persique, condamne ces déclarations. Ceux qui ont gardé le silence sur les attaques terroristes répétitives contre les navires iraniens accusent maintenant l'Iran sans preuve, a-t-il souligné. Toute aventure anti-iranienne recevra une réponse immédiate et ferme, a-t-il martelé encore. L'armée syrienne combat le terrorisme à la place de nombreux pays du monde, a déclaré le chef du groupe parlementaire tchèque pour l'amitié avec la Syrie et vice-président du Parti communiste tchèque de Moravie. Et Stanislav Grospič a affirmé que l'armée arabe syrienne mérite tout le respect car elle combat le terrorisme et défend la stabilité et la paix internationale à la place de nombreux pays du monde. Ismail Haniyeh a été réélu par acclamation à la tête du bureau politique du Hamas pour un second mandat de 4 ans, a annoncé le comité central des élections qui a supervisé les étapes du processus électoral interne du mouvement dans toutes les régions. Et selon le comité électoral, Yahya al-Sinwar a été élu à la tête du bureau du mouvement ouvrier à Gaza et Khaled Mashal à la tête de ce bureau à l'étranger. Tunisie, le président Red Saïed limoge 2 ministres supplémentaires. En Tunisie, le président Kaïs Saïed a émis un décret portant sur le limogeage d'Ali Kouli, ministre de l'économie et des finances, a-t-on appris auprès de la présidence de la République. Sihem Boukdiri Nemissa a été chargé de gérer les affaires courantes de ce ministère, a noté la présidence sur sa page officielle de Facebook. Par ailleurs, le chef de l'État a signé un second décret présidentiel portant sur le limogeage de Mohamed Fazel de Krahim, ministre de technologies de communication, également ministre de l'agriculture par intérim. Nizar Ben Neji a été chargé des affaires courantes du ministère des technologies de communication, selon les services du cabinet du président Saïed. En fait, cette décision du président Saïed a suscité de nombreuses réactions, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. Le président Saïed dit qu'il est tout à fait dans son rôle et qu'il agit selon la constitution du pays pour sauver la Tunisie. Eh bien, chers amis, avec cette dernière nouvelle, notre journal d'information s'achève. Merci infiniment de l'avoir suivi. Merci beaucoup pour votre fidélité à la radio francophone iranienne.
Bonjour à toutes et à tous et merci de choisir l'émission Le Débat diffusée depuis la capitale iranienne Téhéran. Je vous demande de bien vouloir rester avec nous. Aujourd'hui, nous allons parler de la France et des manifestations en ce moment même qui se déroulent contre l'obligation vaccinale et l'extension du pass sanitaire. Alors voilà. Et les Gilets jaunes ont décidé de rejoindre donc c'est les manifestants pour également réclamer leurs revendications. Alors, pourquoi les manifestants sont si mécontents? Car cela prend atteinte à la liberté individuelle et parle même d'une forme de dictature dans ce pays, d'un Emmanuel Macron, un président français qui essaye de diviser le pays, car la ministre du Travail a déclaré que toute personne qui n'aurait pas de passe sanitaire serait tout simplement expulsée de son travail, un projet de loi qui va entrer en vigueur exactement dans une semaine. Des experts des questions internationales vont essayer de faire vivre le débat d'aujourd'hui, tout à l'heure, juste après ce reportage. Restez avec nous, je vous prie.
Les opposants aux restrictions anti-Covid annoncées par Emmanuel Macron ont une nouvelle fois manifesté partout en France ce 31 juillet, à quelques jours de leur entrée en vigueur. Ils étaient plusieurs dizaines de milliers partout en France. Paris, Marseille, Lille, Metz, Nantes, Nice ou encore Bordeaux. Au total, ce sont plus de 150 villes qui font l'objet d'appels à manifester, comme ce fut le cas les semaines précédentes. Parmi les revendications des manifestants figurent notamment l'opposition à l'obligation vaccinale et à l'extension du pass sanitaire qui doit rentrer en vigueur officiellement le 9 août, soit quelques jours après la décision du Conseil constitutionnel. Le gouvernement, qui alerte contre une quatrième vague de coronavirus sur tout le territoire, n'entend pas reculer malgré la contestation. De son côté, la ministre du Travail a expliqué que les employés concernés par l'obligation de disposer d'un pass sanitaire sur le lieu de travail et qui ne s'y soumettront pas verront leur contrat de travail suspendu sans rémunération et pourront poser des RTT. Mais il n'y a pas qu'en France que des mobilisations anti-dictature s'organisent. Partout ailleurs, ce sentiment anti-oligarchique monte d'un cran. Les Italiens donnent l'exemple à Milan. Aujourd'hui, les Gilets jaunes ont déjà rejoint les anti-vax et bien d'autres catégories suivront. Et aujourd'hui, malgré le côté pacifique des manifestations, on sent le sentiment insurrectionnel qui s'agite depuis 200 ans.
Alors voilà pour le reportage. Merci d'être avec nous. Vous regardez l'émission Le Débat depuis Téhéran. Alors comme j'ai promis, j'ai le plaisir de vous présenter nos deux chers invités en commençant par M. Pierre Dortiguier, politologue depuis Toulouse. M. Dortiguier, bonjour.
Bonjour monsieur. Très très heureux de me trouver en votre présence et de saluer vos auditeurs et aussi bien sûr votre invité.
Un plaisir de vous recevoir, M. Pierre Dortiguier. Grand bonjour également à M. Bernard Cornu, expert des questions internationales depuis Vaucluse. M. Cornu, bonjour.
Oui, bonjour à vous et bonjour à M. Dortiguier.
Alors, c'est toujours un plaisir de vous recevoir. Dans cette émission, ma première question va s'adresser à M. Pierre Dortiguier. Alors, M. Dortiguier, le gouvernement n'entend pas reculer face à ce projet de loi qui divise la France?
Oui, en effet, c'est une sorte de crispation, si je puis dire, du gouvernement et on connaît, bien sûr, du président de la République qui, à cet égard, disons, ne semble pas avoir conscience véritablement de la responsabilité de sa charge. Car la charge d'un président, c'est aussi d'expliquer les choses, de rassurer les Français et non pas de diviser ceci. En présentant, par exemple, ce qu'on appelle, entre guillemets, les non-vaccinés, comme représentant un danger à l'égard de ceux qui le sont. Je crois que le propre d'un chef d'État est de rassurer une population d'opposer. Cela vaut pour des gens qui ont une formation marxiste ou autre, mais pas du tout pour des personnalités, de poids. À cet égard, je crois que les manifestations d'aujourd'hui sont qui sont dirigés justement contre cette obligation qui est l'obligation, vous savez, d'un pass sanitaire qui est en réalité la dernière marche avant ce qu'on appelle l'obligation vaccinale. Oui, je crois que c'est une chose qui est qui est demandé, je crois, par le président de la Fédération hospitalière de France, là, M. Valetou. Je crois que nous y allons. Et alors, je dirais que ce que craignent les Français, de façon raisonnable, je ne parle pas de gens qui s'opposent à tout, ou des sentiments anarchistes, qui ont des sentiments anarchistes, non. C'est que nous ne sommes, nous pensons que ce vaccin qu'on nous présente n'est pas réellement un vaccin, mais est une sorte de thérapie génique, vous voyez, de thérapie qui transforme le système génétique. Et ceci n'est pas entièrement, disons, vérifié. Et donc, il faudrait agir avec prudence. Et c'est ce qu'a dit monsieur, notre ancien prix Nobel, qui vraiment était, disons, ferme là-dessus. Il a dit qu'en conscience, il ne se ferait pas vacciner. Alors, voyez-vous, vous avez l'obligation vaccinale également faite aux... à des gens qui travaillent dans les hôpitaux, à ce qu'on appelle les soignants. Il y a des accidents aussi. Il y a quand même des coïncidences fâcheuses entre une personne, par exemple, qui reçoit une dose et ensuite, quelques jours après, disparaît. Vous savez, tout ceci mériterait d'être bien pesé, d'être fait avec prudence et non pas être l'objet de mesures administratives qui sont par définition générales, comme il le faut, mais aussi aveugles. Et je crois que là-dessus, il y a une confusion entre l'administration et la politique. Je crois qu'on ne dirige pas un pays avec des mesures administratives seulement. Il faut également le diriger d'une façon humaine, d'une façon raisonnable. Et de ce point de vue, je dois dire que le président de la République est mis en cause ici, un peu peut-être pour son manque de maturité politique. C'est un homme jeune, un homme qui n'a pas la même prestance que nos anciens présidents, que j'ai connu évidemment le général de Gaulle, que ce soit M. Pompidou, que ce soit Giscard d'Estaing ou autre. Enfin, je pense que ceci, comme M. Chirac, n'aurait pas agi de la sorte, voyez-vous. Et je dois dire que c'est une nouvelle génération également d'administrateurs, voyez-vous, qui prennent les hommes comme des choses, voyez-vous, et non pas comme des réalités vivantes. Je dois dire qu'il y a aussi beaucoup d'incertitudes du point de vue médical. Et il ne faut pas transformer ces certitudes en mesures administratives, en faisant et surtout en pesant sur les soignants, par exemple. Voyez-vous, je dois dire qu'on administre les gens d'une manière, on doit les administrer en tenant compte des situations concrètes, réelles, avec prudence, et non pas du tout avec autoritarisme. Je crois que les Français ne supportent pas cela, et je dois dire que nous avons certainement des défauts comme Français. Mais je dois dire aussi qu'il y a cette qualité de réaction, et je pense que M. Cornu également me soutiendra sur ce point. Je suis moi-même très prudent en matière de vaccination, et je dois dire que ce que je mets en cause, moi, c'est justement le caractère non vaccinal de ce qu'on nous présente. Qu'est-ce que c'est que ces nanoparticules qu'on introduit finalement dans ces vaccins? Est-ce que vraiment c'est quelque chose qui est au point? Est-ce qu'il n'y a pas un but politique final de surveillance, voyez-vous? Ce sont des questions légitimes. Je crois qu'un président devrait répondre à ces questions et non pas mettre en accusation comme une sorte de lutte de classe, voyez-vous, des Français les uns contre les autres.
Merci Pierre Dortiguier. Alors ma question va s'adresser à M. Cornu. M. Cornu, est-ce que vous donnez raison à des milliers de Français qui manifestent contre l'obligation vaccinale, d'après ce qu'a dit M. Dortiguier?
Oui, il y a eu beaucoup de manifestations. Ça a augmenté par rapport à la semaine dernière. Et l'essentiel des manifestants protestaient contre les restrictions aux libertés, contre les obligations faites sous la forme du pass sanitaire qui sera nécessaire bientôt pour entrer dans les restaurants, dans les fêtes et tout ça. Donc ça, ce sont effectivement des mesures peu débattues puisque le gouvernement actuel a la majorité à l'Assemblée. Donc il y a eu quelques débats, bien sûr, à l'Assemblée et au Sénat, mais sans beaucoup d'effet sur les modifications de la loi. Il y a eu quand même quelques-unes puisque les licenciements du personnel ne sont pas restés dans le projet de loi. C'est vrai que les Français, comme beaucoup de pays habitués à la démocratie, à la liberté, réagissent vivement quand il y a des mesures autoritaires, pas assez discutées, pas assez nuancées. Et surtout, là aussi, je suis d'accord, il y a un déficit de la communication gouvernementale qui n'explique pas assez les choses, qui ne répond pas à certaines suggestions ou fausses informations diffusées très largement dans les médias alternatifs. Et donc, il y a vraiment besoin d'un effort de communication pour être plus précis, pour dégager par des débats contradictoires entre des réels spécialistes ce qui est assuré, ce qui est confirmé par les scientifiques et ce qui reste en doute. Par exemple, effectivement, les effets à long terme des vaccins, nul ne peut donner de garantie. Et malheureusement, effectivement, comme les fabricants eux-mêmes ont demandé à la Commission européenne de se dégager de toute responsabilité sur le long terme, la puissance publique, en l'occurrence l'autorité de santé européenne, aurait dû dégager un fonds de garantie pour permettre, s'ils arrivaient plus tard, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 10 ans, des effets secondaires nouveaux, il aurait fallu dégager des moyens pour faire des recherches, pour trouver les contrepoisons ou les médicaments, les traitements nécessaires pour cela. Donc actuellement, c'est vrai que tous ceux qui objectent qu'on n'a pas de vision à long terme, même si les risques sont apparemment limités, puisque les anciens vaccins ont toujours fait des effets secondaires assez rapidement dans les semaines et les mois qui suivent, donc il n'y a pas eu d'histoire de vaccin qui ait fait des effets au bout de 2 ans, 3 ans, 10 ans. Ou alors ce sont des cas très minimes de quelques personnes par million et dans lesquels on ne peut pas toujours affecter au vaccin lui-même la raison d'une maladie développée plusieurs années plus tard après une vaccination. Alors c'est vrai, en plus il y a des données, les données des effets secondaires sont connues. En France, on a à peu près 37 décès parmi les vaccinés, ce n'est pas négligeable. Mais il n'y a aucune communication du gouvernement là-dessus pour la comparer, pour donner des chiffres plus précis sur les causes de mortalité de ces quelques personnes qui sont mortes après la vaccination. Donc c'est vrai que les fantasmes se développent, les interrogations se développent. Il ne faut pas dire que ces gens sont des complotistes, il faut réagir rationnellement et donner des explications. Voilà. Donc je pense qu'il est tout à fait normal, et même on aurait pu avoir plus de 200 000, plus de 300 000 personnes, puisque les décisions autoritaires sur ce pass sanitaire dont on a dit qu'il ne serait pas obligatoire, la vaccination dont on a dit qu'il ne serait pas obligatoire, voilà, donc les gens sont méfiants, et je crois qu'ils ont raison de descendre dans la rue. Il y a eu peu de violences, même si on les a montrées à la télévision, même Al Jazeera, quelques violences pour les quelques manifestations qui sont restées après les heures limites de fin de manifestation. Ceci, c'est presque inévitable. Bon, dans ces affrontements, il y en a qui les cherchent, et il y a des policiers aussi, ils ne sont pas tous très bien formés. Voilà, donc voilà, je crois que le gouvernement a besoin de donner plus d'explications, et je pense s'il veut pousser la vaccination chez ceux qui sont encore récalcitrants, je crois que ce qu'il faut dire, c'est que la vaccination marche et que on a des taux qui ont scientifiquement prouvé de 95, autour de 95% pour la plupart des vaccins diffusés en Europe. Et on a aussi constaté que la plupart des gens qui sont contaminés, qui sont infectés, sont en très grande majorité, on a cité 96%, des gens qui ne sont pas vaccinés. Donc il faudrait mieux préciser la communication médicale, statistique sur ce thème-là, plutôt que d'inquiéter les gens et de surtout ne pas répondre à leurs interrogations légitimes.
Et tout à fait. Pierre Dortiguier, malheureusement, le gouvernement n'écoute pas donc votre conseil qui consiste à donner plus d'explications quant à la réalité des choses. Et ce qui inquiète Pierre Dortiguier, c'est le nombre de manifestants partout en France qui augmente chaque jour contre cette obligation vaccinale, et c'est une atteinte à la liberté individuelle.
Oui, en effet, on peut dire qu'il y a un énervement de la population. Je le sens moi-même quand je communique ici, je vis à la campagne, je communique avec des voisins ou des gens de passage. Je remarque un sentiment, disons, d'inquiétude de la population. Cela va même, je parle dans les anciens élèves qui appartiennent à la police, je suis très étonné de voir qu'eux-mêmes ne savent pas s'ils seront vaccinés ou non. Ce serait d'ailleurs une chose très intéressante de savoir si cette obligation vaccinale va s'appliquer aux forces de l'ordre. Je dois dire que c'est la manière d'être traité, voyez-vous, qui est, ce qu'a très bien dit M. Cornu, vraiment d'une façon tout à fait mesurée, mais très précise, que nous n'avons pas, le peuple français n'a pas le sentiment d'être véritablement bien gouverné. Il a le sentiment d'avoir affaire à une administration qui d'ailleurs change d'avis C'est-à-dire, on dit on ne fera pas ceci, ensuite on le fait. Je dois dire qu'il y a également des invraisemblances. Moi-même, disons, je parle en logicien, si je puis dire, j'étudie la logique, bien sûr, comme tous ceux qui ont fait de la philosophie. Enfin, dire que nous sommes sûrs que tel variant va apparaître dans plusieurs mois, cela me semble ressortir quand même d'une sorte de magie, voyez-vous. Non, nous ne pouvons pas, disons, traiter de phénomènes scientifiques comme on traite d'idéologie, voyez-vous. Je dois dire que ce sont les rapports humains en France qui sont mis en cause, voyez-vous. Je sais que nous avons des défauts nationaux, en particulier ce qu'on a appelé le Congo Gobineau, l'instinct révolutionnaire français. Oui, c'est vrai. Nos voisins du Nord, par exemple, nos voisins allemands, sont beaucoup plus conservateurs, c'est vrai. Il y a bien sûr des caractères particuliers au peuple. Mais je comprends très bien que cette absence, comme a très bien dit M. Cornu, cette absence de communication, c'est surtout elle qui choque les Français. C'est-à-dire qu'on ne peut pas gouverner un peuple à coup de mesures administratives avec des menaces de sanctions financières et autres, empêcher des gens de prendre un café. À l'intérieur d'un café, il faut un pass, à l'extérieur, il n'en faut pas. Tout ceci ressort, ce sont des détails, mais ressort vraiment de vexation. C'est surtout, je dois dire, la réaction des soignants, comme on les appelle, voyez-vous, qui nous a frappés. Beaucoup voient des phénomènes qui ont une importance statistique. C'est vrai qu'il y a des disparitions, c'est vrai qu'il y a des morts, il ne faut peut-être pas les exagérer, mais il ne faut pas non plus quand même fermer les yeux. Donc on attendait du gouvernement, je répète ce que dit M. Cornu, on attendait du gouvernement et du chef du gouvernement, de la tête du gouvernement, qu'il nous explique ces choses-là. C'est-à-dire que je ne dis pas rassurer en présentant l'avenir en rose, mais disons conforter les Français. Et ça, il ne l'a pas fait. C'est le fait que je lui reproche, moi personnellement, je peux le reprocher puisque M. Macron a été, si je puis dire, je n'ose pas dire un collègue, mais enfin nous avons fait, j'ai suivi une partie des études comme lui au lycée Henri IV et ensuite en philosophie. Je ne peux pas dire qu'il n'a pas été à la hauteur de sa tâche et de ce point de vue, il est à la fois autoritaire et hésitant. Voyez-vous, on sent qu'il n'est pas véritablement mûr pour cette charge haute, voyez-vous. Et c'est cela qui irrite les Français. Les Français ne sont pas contre le fait d'être gouvernés. Ce ne sont pas des anarchistes de cœur. Mais ce sont des gens raisonnables en général, comme d'autres peuples, bien sûr. Mais disons que chez nous, nous aimons qu'un chef soit, disons, véritablement sensible à son peuple, voyez-vous. Et là, nous avons vu, surtout dans le discours des marquises, qu'il était en campagne électorale et quand même désigner les non-vaccinés comme des responsables de la pandémie, c'est quand même un peu gros. Je ne dis pas que ça n'a aucun sens du point de vue, bien sûr, scientifique, mais sur un sens politique, même d'un point de vue politique, c'est désastreux, voyez-vous. Et c'est ça, je crois, qui coûtera cher. Je crois, bien sûr, à M. Macron. Je crois que là, il y a une désaffection, voyez-vous, de la part du peuple. Et bien sûr que les anciens, les gilets jaunes, tous ces gens qui ont été méprisés. Je ne dis pas qu'il fallait accepter tout ce qui était dit dans les manifestations. Mais le mépris, c'est peut-être quand même la dernière des cartes que doit jouer un gouvernement. Et ceci est vrai dans les familles, à tous les niveaux de l'autorité. Un professeur dans une classe ne méprise pas sa classe. Il peut l'affronter, mais il ne doit pas la mépriser. C'est la même chose pour M. Macron. Je crois qu'il a été choisi, je reviens à lui, peut-être à cause des faiblesses de son caractère. Ceux qui l'ont choisi ont peut-être misé là-dessus pour faire passer des mesures autoritaires, voyez-vous, de façon hypocrite. Et je crois qu'il le paiera cher, sur le plan politique. Je ne crois pas, disons, qu'il puisse envisager une réélection dans ces cas-là. Mais enfin, ceci n'est qu'une conséquence, évidemment, avec, bien sûr, de l'affaire. Et ce qui me frappe beaucoup, en tout cas, c'est la réaction des soignants, le fait qu'ensuite, il n'y ait pas de communication. Je répète ce que dit M. Cornu, qu'il n'y ait pas de communication réelle. On ne dit pas les choses comme elles sont, voyez-vous. Vous savez, une des raisons, je terminerai là-dessus, une des raisons souvent de la révolte des peuples, c'est que justement, non pas qu'ils sont contre le gouvernement, mais qu'ils savent qu'ils ne sont pas bien gouvernés. C'est cela, voyez-vous, et qu'on confonde l'autoritarisme de ton, voyez-vous, avec l'absence de gouvernance dans les faits. Voilà. C'est pour ça que je reviens aussi sur l'opinion de M. Luc Montagnier, que je voulais citer tout à l'heure, qui est notre ancien prix Nobel, qui est un homme âgé maintenant, plus âgé que moi, du reste, et qui lui-même a dit qu'il était très sceptique, mais pas quant à ses mesures, et qu'il ne se ferait pas vacciner. C'est quand même très fort comme prix Nobel en biologie, quand même, dire cela. C'est-à-dire que... est-ce que véritablement nous avons bien pesé les conséquences médicales et scientifiques de ce que nous imposons aux gens? Non, c'est ce sentiment d'inquiétude, voyez-vous, qui explique ces manifestations plus que des sentiments d'anarchie. Il ne faut pas en tout cas, disons, jeter la pierre sur les Français.
Oui.
Je crois que c'est ce que je voulais conclure, disons.
Évidemment, le sentiment d'inquiétude chez les Français augmente chaque jour. Monsieur Cornu, d'après Monsieur d'Ortiguier, Emmanuel Macron, le président français, n'est pas à la tâche, donc à la hauteur de sa tâche, donc qu'il dispose. Mais beaucoup pensent qu'il est même manipulé par Washington et les Israéliens. Et maintenant, les manifestants pensent que c'est une forme de dictature. Qu'en pensez-vous?
Voilà, c'est un autre sujet. Hein. Moi, je ne souscrirais pas ça. Je crois qu'on a quand même une certaine indépendance de pensée en France, même parmi le gouvernement. Mais je voulais, pour préciser justement à vos téléspectateurs, je voulais prendre un exemple très concret. On a eu une hausse depuis 3 semaines en France très forte de la contamination, donc le taux d'incidence. Il est très élevé sur les côtes, dans les régions touristiques, et il est le plus élevé dans la tranche d'âge des 20 à 29 ans. Ce sont les gens, les jeunes, qui vont boire, qui vont danser, qui vont s'amuser, qui se rassemblent, qui retrouvent leurs amis, qui vont sur les plages, qui vont dans les discothèques. Donc effectivement, la contamination est très forte. Mais le gouvernement aurait dû rappeler que le risque de mortalité, ce qu'on appelle le taux de létalité, pour cette tranche d'âge de 20 à 29 ans, il est presque 80 fois, 100 fois inférieur à celui des gens qui ont 80 ans ou 75 ans. Donc en fait, et au lieu de dire cela, le gouvernement nous montre un hôpital avec un jeune quelque part qui a 28 ans et nous dit voilà, ce monsieur a été mis en réanimation, il a 28 ans. Mais si on dit ça, effectivement, les gens s'inquiètent, ils disent des jeunes aussi peuvent mourir, ce qui est vrai. Mais s'ils ne donnent pas en même temps la statistique, c'est-à-dire le très faible risque que cette tranche d'âge a de mourir de la Covid, la communication est faussée, elle fait peur. Et quand on a peur, on ne réfléchit plus, on a peur et on manifeste ou on proteste ou on se soumet. C'est très malsain. Voilà, j'ai pris un exemple très précis dans lequel la communication du ministère, des médias publics est déficiente. On doit associer des images à des analyses rationnelles, à des statistiques, pour que les gens aient une réflexion juste là-dessus et ne pas, soient pas prises par la peur. La précaution est importante, la prudence est importante, la peur est toujours mauvaise conseillère, comme on dit en France. Soit on se soumet, soit on divague.
Alors pourquoi le gouvernement, M. Cornu, refuse de bien expliquer les choses?
C'est pas facile. Moi, je passe aussi beaucoup de temps, mais comme les responsables autour du ministère, autour du gouvernement, pour traiter les données. Ensuite, dans l'effort des médias publics, je pense que c'est insuffisant et qu'on a toujours tendance dans les médias à vouloir faire peur parce que ça attire l'attention, les gens vont cliquer, regarder une vidéo, regarder un reportage. Alors que quand c'est un peu plus rationnel, c'est vrai que c'est parfois un peu plus ennuyeux, mais ça explique les gens. Je crois qu'il y a un problème de la communication publique qui est déjà très important. Ils ont tendance à vouloir faire peur, à trouver le fait exceptionnel, l'inondation très forte par ici, le malade très jeune par ici, au lieu de montrer une vue assez rationnelle, large, d'avoir une vue qui permette aux gens d'avoir une vue, disons, rationnelle des choses, et que le gouvernement s'appuie dessus, que les responsables qui viennent parler, et aussi, comme je l'ai dit, on n'a jamais vu de débat entre deux personnes compétentes qui parlent et qui ne sont pas en accord et qui disent clairement sur quoi ils sont d'accord sur des bases scientifiques et sur quoi ils sont en désaccord parce qu'il y a encore des interrogations, il y a encore des choses à étudier et ça manque parce que du coup les gens n'ont plus confiance dans ce qui est dit, y compris par les scientifiques, parce que le ton dans les médias publics est toujours le même.
Bernard Cornu, depuis Vaucluse, expert des questions internationales, merci beaucoup d'avoir apporté des précisions à cette émission. Un grand merci à M. Pierre d'Ortiguier, politologue depuis Toulouse, d'avoir répondu à nos questions. Eh bien, merci pour votre fidélité. Au revoir à tous.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission consacrée à l'actualité de la région de l'Asie de l'Ouest. Le président du Parlement iranien, Mohammad Bagher Gharibov, a dévoilé des plans pour la mise en œuvre d'un accord inclusif avec la Syrie dans les trois prochains mois. S'adressant aux journalistes à son arrivée à Téhéran après une visite de 4 jours en Syrie, Gharibov a déclaré vendredi que lui et sa délégation avaient eu des entretiens fructueux avec les autorités syriennes sur les moyens d'atteindre les objectifs économiques et commerciaux dans les relations entre les deux pays. Selon la conclusion des négociations tenues à Damas, l'Iran et la Syrie commenceront à conclure un accord inclusif dans les 3 prochains mois, ajouté Mohammad Bagher Gharibov. Il a également noté que le Parlement des deux pays ratifieront l'accord inclusif selon lequel l'Iran et la Syrie travaillent depuis plus d'un an. Soulignant les discussions approfondies que la délégation parlementaire en visite a eu avec les hommes d'affaires syriens et iraniens, Gharibov a déclaré qu'il existe des motifs appropriés pour la coopération économique de l'Iran avec la Syrie. L'Iran devrait saisir ses opportunités économiques et travailler avec la Syrie de la même manière qu'il a soutenu ce pays arabe dans la lutte contre le terrorisme, a noté Gharibov. Il a finalement dévoilé les plans de la prochaine visite du Premier ministre syrien à Téhéran, affirmant que Hossein Arnous devrait participer à l'investiture du président iranien élu Ebrahim Raisi. Lors d'une réunion avec des membres du groupe d'amitié parlementaire Iran-Syrie tenue à Damas au début du mois, le ministre syrien des Affaires étrangères Faisal Miqdad a déclaré que de son pays était sorti de la crise et était prêt à promouvoir la coopération économique et commerciale avec les pays amis dont l'Iran à l'ère de la reconstruction. Dans des commentaires en février, le président de la Chambre de commerce Iran-Syrie a déclaré que les entreprises iraniennes avaient la priorité sur les autres pour mener à bien des projets dans le processus de reconstruction de la Syrie après des années de guerre. En novembre 2019, l'Iran et la Syrie ont signé un protocole d'accord pour créer 3 sociétés communes afin d'accélérer la reconstruction de la Syrie qui a été frappée par des années de guerre menées par des puissances étrangères et des terroristes venus de plusieurs pays du monde. L'Iran condamne les accusations israéliennes sans fondement sur l'attaque contre le pétrolier israélien. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a condamné l'accusation israélienne à l'Iran d'être derrière l'attaque contre un pétrolier israélien en mer d'Oman, réalisée selon l'armée américaine et l'opérateur du navire au moyen d'un tir de drone. Ces accusations n'ont aucun fondement. L'Iran ne manquera pas de défendre ses intérêts nationaux, a souligné le porte-parole de la diplomatie iranienne Saïd Khatibzadeh. 2 membres de l'équipage, un ressortissant roumain et un ressortissant britannique, ont succombé pendant l'accident de jeudi 29 juillet à bord du MT Mercer Street qui appartient à l'amateur Zodiac Maritime, une société internationale propriété de l'Israélien Rial Offer et dont le siège est situé à Londres. D'ailleurs, c'est la version présentée par des médias et des milieux politiques et médiatiques occidentaux. Ce n'est pas pour la première fois qu'il lance des accusations pareilles. Ce genre d'accusations sont condamnables, a souligné le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Saïd Khatibzadeh. « Le Liban a évité le pire ce week-end. En moins de 12 heures, deux assassinats aux dangereuses retombées de sectaires ont été perpétrés. Le premier a eu lieu lors d'une cérémonie de mariage dans un centre balnéaire à Djiye, localité sur le littoral sud, a été tué de sang-froid. Ali Chebli, un habitant de la localité de Dakhalde, située à la sortie sud de la capitale. Son assassin, un membre d'une tribu de nomades arabes, couramment appelés les tribus de Khalde depuis qu'ils ont été neutralisés par l'ex-premier ministre Rafiq Hariri dans les années 90 du siècle dernier. Dans un communiqué publié après l'assassinat, ces derniers décrivent le meurtre comme étant une vendetta à la mort l'an dernier d'un jeune garçon de la famille Khosn appartenant à leur tribu, imputé à la victime de samedi. L'an dernier, ce jeune garçon de 15 et 16 ans faisait partie d'un groupe de jeunes armés qui avait attaqué le centre commercial d'Ali Chebli à Khalde pour avoir arboré une banderole d'Ashura sur sa vitrine. Il a succombé dans des échanges de tirs. La responsabilité d'Ali Chebli n'a été confirmée dans l'enquête qui s'en est suivie. Depuis, les provocations perpétrées par certains éléments des tribus de Khalde ne connaissent pas de répit. Ce dimanche, une deuxième attaque a eu lieu pendant les obsèques d'Ali Chebli lorsque sa dépouille a été apportée depuis l'hôpital Al Rasoul Al Azam dans la banlieue sud de Beyrouth à de son village natal à Khalde. Un cortège funèbre l'y avait accompagné pour un dernier adieu arborant les drapeaux du Hezbollah. Le convoi des funérailles d'Ali Chebli a fait l'objet de tirs nourris, a indiqué un communiqué de l'armée. À l'arrivée du convoi funèbre d'Ali Chebli au domicile familial à Khalde, les personnes présentes ont été prises dans une embuscade et victimes de tirs intenses, a indiqué pour sa part le Hezbollah libanais dans un communiqué publié en début de soirée, indiquant qu'il y a eu deux tués, l'un d'entre eux étant le beau-frère d'Ali Chebli, un médecin. Le commandement du Hezbollah libanais fait le suivi de cette affaire avec grand intérêt et demande à l'armée, aux services de sécurité, d'intervenir pour imposer la sécurité, arrêter les criminels afin qu'ils soient jugés, a conclu dans ce terme le Hezbollah libanais de son communiqué. Un drone abattu en Syrie. En Syrie, la DCA syrienne a abattu ce lundi un drone de reconnaissance dans la province d'Alep, a rapporté le correspondant de la télévision libanaise d'information Al-Mayadin. L'appareil a été abattu à proximité de la région Azan, dans la province sud d'Alep. Il est de soit israélien, soit turc, a indiqué un journaliste sur place. La semaine passée, l'entité sioniste avait lancé trois raids aériens contre les provinces d'Alep, de Homs et de Damas. Selon les sources syriennes et russes, la majorité des missiles air-sol qui ont été tirés par les F-16 israéliens ont été abattus avec des batteries anti-aériennes russes de type Buk et Panthir. Eh bien, chers amis, si touche à sa fin cette émission, merci infiniment de l'avoir suivi. Merci beaucoup pour votre fidélité à la radio francophone iranienne.
Thank you.